Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Rebsamen.
Bonjour François Rebsamen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio. Alors bien sûr, la mairie de Dijon suffit à votre bonheur, j'en suis sûre. Il n'empêche, pourquoi avez-vous refusé ce poste de ministre de l'Intérieur alors que vous l'aviez admis vous-même publiquement plusieurs fois? C'est un poste auquel vous aspiriez, vous attendiez depuis le début du quinquennat.
Parce que j'ai tourné la page. En 2012, effectivement, je m'étais préparé pour être ministre de l'Intérieur. Trop préparé, on dit certains dans des livres, mais je m'étais préparé et je tourne pas ma vie vers le passé, je regarde vers l'avenir. Et donc, quand j'étais ministre du Travail, quand mon ami Alain Millot, celui qui était mon successeur à la mairie de Dijon, est décédé, j'avais pris l'engagement de revenir, je suis retourné à la mairie de Dijon, j'y suis, je travaille pour que Dijon devienne une métropole, et donc je suis bien à Dijon, je suis heureux.
C'était trop tard pour dire oui, pour dire les choses simplement.
Non, j'étais bien à Dijon, je ne voulais pas quitter ma ville et ma métropole, parce que j'ai pris des engagements, et j'aime bien tenir mes engagements.
Mais franchement, est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose aussi d'un peu, entre guillemets, humiliant de vous proposer ce poste, un CDD de 5 mois à Place Beauvau?
Je ne l'ai pas pris comme une humiliation. Au contraire, toute proposition de ce genre est plutôt, j'allais dire, flatteuse. Et s'occuper de la protection des Français, puisque c'est cela que Bruno Le Roux aura à faire pendant 5 mois, c'est une noble et grande tâche.
Pour le dire autrement, ça aurait été un sacrifice par rapport à la mission que vous avez à la mairie de Dijon, d'aller à Place Beauvau pour 5 mois.
Oui, mais j'ai fait un choix. Ça, c'est ça. Bon, l'engagement que je voudrais faire passer, le mot que je voudrais faire passer, mon engagement depuis septembre 2015, c'est la ville
auprès
de Dijon.
Auprès des Dijonnais. Ça restera un regret pour vous?
Ça l'a été, mais bon, ça va.
Vous êtes devant.
Je suis bien dans ma vie.
Est-ce que les Hollandais historiques dont vous êtes ont été les mieux servis pendant ce quinquennat?
Servi, je ne sais pas, mais on n'est pas là pour servir,
pour se servir.
On est là pour servir. Hein, donc, non, ça non. Hein. Est-ce qu'on a été bien ou mieux servi que les autres? Ça, je n'en sais rien. Moi, j'ai été ministre
du
Travail.
Vous avez un ami.
Je n'ai pas à me plaindre. Ouais. Je crois que tous les amis de François Hollande qui ont eu des responsabilités ministérielles, et il y en a beaucoup, ont fait le mieux possible leur travail. Et donc, on n'a pas calculé si on était bien ou pas bien servi.
Voilà.
Franchement.
Bon, très loyal, décidément. François Rebsamen,
oui,
est-ce que le hollandisme est mort avec le renoncement de François Hollande à se présenter?
Le hollandisme, non, si on le définit précisément. Hollandisme, c'est quoi? C'est cette synthèse mitterrandienne qui permettait d'être au centre de la gauche, de porter les valeurs de la social-démocratie.
Au centre de la gauche ou au centre du parti?
Au centre de la gauche, parce que le centre du parti, c'est le centre de la gauche. Et donc, d'être au centre de la gauche, de ne pas partir sur une dérive sociale-libérale, c'est pas quelque chose qu'on peut critiquer comme ça, mais il y a des sociaux-libéraux, Emmanuel Macron en fait partie, Manuel Valls a cette tendance, et puis il y en a qui sont plus à gauche, comme Arnaud Montebourg, je ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, qui lui fait son chemin tout seul.
Oui. Mais donc c'est le point d'équilibre de la gauche, pour dire les choses simplement, entre Valls et Montebourg. Je ne parle pas de Macron, qui n'est pas dans la primaire.
Entre Valls et Montebourg, à l'intérieur du parti. Si on prend ces deux personnages comme exemple, oui, c'est ça.
Et donc, sans François Hollande, ce centre n'est pas représenté à la primaire. C'est un handicap pour gagner?
Oui, je pense que Manuel Valls l'a compris. D'ailleurs, il faut qu'il occupe ce centre. Il faut donc qu'il soit porteur de cette capacité de compromis, de synthèse. Parce qu'en politique, on n'avance que par le compromis. Et donc, il faut... je n'ai pas de conseils à lui donner, mais je pense qu'il faut une méthode un peu différente. Je veux dire, on ne gouverne pas la gauche avec un 49-3.
Ouais, donc l'autoritarisme dont il a fait sa marque de fabrique à Matignon, ça ne peut pas être pour lui un axe de victoire de la primaire.
Mais je crois qu'il l'a compris.
Vous lui donnez quitus de cela?
Je crois. Mais je regarde pour le moment, mais il a de l'autorité. Il a une autorité naturelle, elle ne doit pas se transformer en autoritarisme.
Oui, donc pas d'autoritarisme, Manuel Valls, est-ce que vous êtes prêt à le soutenir?
Je regarde pour le moment, je vais vous dire la vérité.
Mais pourquoi, vous êtes social-démocrate, il est social-libéral, vous l'avez dit.
Enfin, il a une tendance social-libérale.
Bon, à part cette question de personnalité, puisque vous parlez d'autorité, c'est une question de personnalité, c'est aussi une question de ligne d'ailleurs,
fondamentalement.
Alors donnez-moi un exemple de ce qu'il pourrait faire comme pas vers vous en termes de lignes ?
Bah, par exemple, en termes de méthode, je vous l'ai dit. En termes de programme, il va falloir regarder le programme. Le programme, il n'est pas détaché de la méthode. La méthode, c'est le compromis. Ce pays manque de compromis, de cette capacité à rassembler et à réunir. À Manuel Valls, aujourd'hui, au niveau de la méthode, de rassembler et de réunir. Et puis sur le programme, il avait un programme très... au moment de la primaire, il avait un programme, en 2012... très très social-libéral, auquel je suis opposé sur certains points. Par exemple, par exemple, la suppression de l'ISF.
Il est revenu. Hier soir sur France 2, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit, voilà, on est passé à autre chose maintenant.
Mais très bien, c'est très bien. Mais voilà, c'est ces marques-là que j'attends de voir, que j'attends pour voir. Parce que je suis un peu orphelin, on va dire la chose comme ça. J'ai soutenu le plus possible la candidature de François Hollande.
Jusqu'au bout, hein.
Jusqu'au bout. Même hors la primaire, je pensais qu'il ne devait pas se soumettre à la primaire en tant que président de la République. Sortir de cela et prendre...
Vous disiez
que
c'est le seul qui peut nous faire gagner à gauche.
Je pensais que c'était le seul qui pouvait nous rassembler.
Parce que vous pensez que la gauche
peut
gagner.
Vous avez vu que j'ai mis un imparfait. Donc, c'est pas sans raison, c'est parce que je pense qu'on a la capacité aujourd'hui de gagner l'élection présidentielle encore. Et je voudrais faire passer cette conviction. Oui, la gauche rassemblée, elle peut non seulement être présente au second tour, mais elle peut faire mieux que le programme de François Fillon, qui va être rejeté par les Français, j'en suis persuadé. J'ai d'ailleurs vu qu'il y avait des députés républicains qui commençaient à lui dire « Oh là là, il ne faut pas dire qu'on va supprimer 500 000 fonctionnaires. Oh là là, il ne faut pas dire qu'on va toucher à la sécurité sociale. » Les Français ne veulent pas de ce programme. Donc nous avons une chance à condition de savoir nous rassembler.
Rassembler autour de Manuel Valls. Vous faites un pas ce matin en disant « Manuel Valls, je te soutiens si tu fais des efforts. » Vous avez été ministre du Travail. Sur la question du travail, on a vu que la primaire de la droite, c'est sur les questions économiques et les questions justement d'organisation du travail qu'elle s'est jouée.
Il y a eu plusieurs lois, par exemple, ma loi, celle que j'ai faite sur le dialogue social, où il y a des avancées, un peu plus de souplesse, pas beaucoup plus, mais un peu plus de souplesse pour les entreprises, c'est très important, mais il y a aussi le volet protection des salariés. Et cet équilibre, c'est ça, à trouver.
Alors soyons plus
protection
concrets,
des salariés, souplesse aux entreprises.
Elle vous a gêné.
La loi El Khomri, je le dis dans mon livre, en toute confidence.
Voilà, chez Stock.
Sur la manière dont elle a été présentée, cette loi, sur ce qu'il y avait dans la loi à l'instant où elle était présentée, moi je ne l'aurais pas défendue. Mais une fois enlevé l'article 30 bis, une fois enlevé la baisse des heures supplémentaires, j'aurais pu très bien, je m'y reconnais, mais il y avait des modifications à apporter.
Donc, en termes d'organisation du travail, vous ne souhaitez pas que Manuel Valls fasse des propositions qui soient sur cette ligne sociale libérale, c'est-à-dire un peu moins de protection pour aider les entreprises à embaucher.
Mais il faut... C'est assez simple. Il faut plus de souplesse pour les entreprises. Personne ne dit le contraire. C'est pas facile, mais ça se fait par le dialogue. Par le dialogue social. J'en suis un défenseur acharné. Et donc, ça se fait par le dialogue, par la discussion. Moi, j'ai connu Manuel Valls quand il était Premier ministre, pendant un an et demi. Nous avons eu d'excellentes relations de travail et il écoutait. Mais 49-3, non.
Emmanuel Macron, c'est un homme que vous avez aussi connu, d'ailleurs, au gouvernement. Ça a été votre collègue, sur le fond d'abord,
c'est la personne, c'est une personne pas droite. Quand je dis ça, ça surprend tout le monde. C'est une personne attachante, agréable.
Vous avez dit une phrase hier chez des confrères. Je pourrais voter Emmanuel Macron. À quelles conditions ?
Qu'il participe à la primaire de la gauche et qu'il la gagne.
D'accord. Donc Emmanuel, vous faites finalement le même appel que Jean-Christophe Cambadélis. N'aie pas peur, Emmanuel, viens dans la primaire.
C'est une très bonne chose et c'est un très bel appel.
Selon vous, est-ce que le président a cédé en partie à la pression de Manuel Valls ? Est-ce qu'il y a eu trop de pression de Matignon sur l'Élysée pour qu'il renonce ?
Il y a eu une pression depuis 15 jours, 3 semaines. Ça avait été d'ailleurs présenté, je crois, par Jean-Marie Le Guen. Il y avait une pression qui se faisait. Mais la politique, c'est aussi ça. Vous savez, à un moment, c'est une des forces de Manuel Valls, il faut savoir pousser la porte.
Vous connaissez bien François Hollande, c'est un de vos amis, vous l'avez suivi pendant des années. Vous saviez qu'en 1993, il a été à deux doigts d'entrer chez Rothschild, le banquier d'affaires. C'est ce que révèle ce matin dans l'excellent hebdomadaire Le 1, Michel Jacob, qui a été un des cadres de Rothschild. En 1993, François Hollande,
après
lui,
défaite,
le futur adversaire de la
après
finance,
sa défaite, après sa défaite en législative.
Vous connaissez
mais
bien
il
sa
ne l'a pas fait.
Mais il ne l'a pas fait. Mais vous connaissiez cet épisode et cette tentation de Rothschild?
Non,
non. chez François Hollande. Non. Et il y a encore des choses à découvrir chez le futur ex-président. Merci beaucoup, Yves Calvi.
Mon engagement.
Merci beaucoup, François Rebsamen.
Merci.
Merci. Ça vous concernait, François Rebsamen. Mon engagement, c'est la ville de Dijon. Venez-vous nous dire, le hollandisme, c'est une synthèse mitterrandienne qui vise à être au centre de la gauche. Et il faut que Manuel Valls accepte cette synthèse, car on ne gouverne pas la gauche à coup de 49-3. Merci à tous les deux. Je rappelle la sortie de votre livre En toute confidence chez Stock. Et on peut retrouver cet entretien sur le site rtl.fr.